France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore gagnée. Voici les mots d'Emmanuel Macron cette nuit sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame dévorée par les flammes hier soir. Le feu ce matin est maîtrisé par les pompiers. C'est évidemment la principale information de ce début de journée. Le président de la République a salué hier le courage et le professionnalisme des 500 sapeurs-pompiers mobilisés. Ils ont pu sauver les deux tours et la façade de la cathédrale. Quelques trésors également, comme la couronne d'épines ou la tunique de Saint-Louis. En revanche, les deux tiers de la charpente ont brûlé. La flèche s'est effondrée hier soir. Nous rebâtirons Notre-Dame de Paris, a promis Emmanuel Macron en annonçant le coup d'envoi dès aujourd'hui d'une grande souscription nationale et internationale. La famille Pinault débloque déjà 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction. Et hier soir, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, beaucoup de Parisiens et de touristes se sont massés dans les quartiers parisiens autour de la cathédrale pour assister impuissant au spectacle déchirant, de la tristesse communément partagée, mais aussi de la colère. Comment un tel drame a pu arriver alors que la cathédrale a traversé 8 siècles d'histoire? La piste accidentelle est privilégiée pour le moment par les enquêteurs car le feu est parti du chantier a priori au niveau du toit de la cathédrale. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie. Les ouvriers du chantier ont commencé à être entendus cette nuit par les enquêteurs. Par ailleurs, toute la classe politique a fait bloc dès hier. La maire de Paris, Anne Hidalgo, dit ne pas avoir de mots assez forts pour exprimer sa douleur. Tous les Français, poursuit-elle, pleurent cet emblème de notre histoire commune. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a fait part lui de son immense émotion. Le patron du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, de sa désolation. Quand Marine Le Pen déplore des dégâts terrifiants, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, se dit lui sidéré devant un immense malheur. Les catholiques aussi, par ailleurs, ont pleuré le symbole de leur foi à travers le monde. Le Vatican exprime son incrédulité et sa tristesse alors que cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la semaine sainte avant Pâques. Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal, a réagi hier la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis l'un des premiers à réagir a été le président américain Donald Trump. Alors que l'incendie ne faisait que commencer, il a ainsi conseillé le recours à des bombardiers d'eau impossibles en zone habitée à Paris. Nous reviendrons sur cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sur les réactions plus longuement dans le journal de 6h30.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Nous avons mis les petits plats dans les grands cette semaine dans la méthode scientifique avec deux prix Nobel, Donna Strickland et Gérard Mourou pour nous parler des lasers. L'immense auteur de science-fiction Alain Damasio pour son nouveau roman 15 ans après la Horde du Contrevent. La patronne du CERN, Ursula Basser, et le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, pour parler des sciences au niveau européen à quelques semaines des élections, ainsi que Marc Janson, botaniste au XXIe siècle, sans compter que nous essaierons, difficilement mais méthodiquement, de nous débarrasser du plastique.
La méthode scientifique, de lundi à vendredi à 16h, et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, Toufik Hakem vous accompagne pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, mon invité ce matin est le photographe italien Alex Maioli. Photoreporteur de l'agence Magnum, il a longtemps, et il continue d'ailleurs à sillonner le monde, de l'Europe à l'Asie, du Brésil au Congo. En ce moment, il expose au Bal à Paris ses impressionnantes photos en noir et blanc qui ressemblent à des tableaux. Situation spontanée, mise en scène par un procédé original où des puissants flashs font disparaître les décors pour mieux saisir les expressions des visages, des corps et des regards. Diane Dufour, la commissaire de l'expo et directrice du bal, est également présente avec nous ce matin pour nous parler du travail d'Alex Maioli.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Scène, tel est le titre de l'exposition de photos d'Alex Maioli qui se tient jusqu'au 28 avril au bal à Paris. Un noir et blanc très puissant, une ambiance crépusculaire à la Caravage, Et contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier coup d'œil, les photographies d'Alex Maioli ne sont pas réalisées la nuit, mais en plein jour. Et c'est en jouant avec un procédé que vous arrivez, bonjour Alex Maioli,
bonjour.
Que vous arrivez à ce résultat, l'aspect très sombre, ce noir très Pierre Soulage qui est obtenu à l'usage d'un puissant flash qui éclaire ce qui est proche, tout en plongeant le reste dans l'obscurité. On va parler de vos photos. Merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Et puis, il y a Diane Dufour donc, avec nous. Est-ce que le travail d'Alex Maioli est un travail de photoreporteur ou d'artiste ou quelqu'un qui se situerait entre les deux ?
Alors, c'est un peu difficile de le définir. En fait, il faut comprendre l'origine peut-être de la démarche d'Alex Maioli. C'est un projet qu'il a mené depuis 10 ans. Alex a été très inquiet, né à Ravenne, dans le nord de l'Italie, en 71, a été très inspiré par le théâtre d'avant-garde italien des années 90, et aussi des lectures comme Pirandello, le grand théâtre d'avant-garde italien. Et il a décidé, il y a 10 ans, de prendre un peu Shakespeare au mot, hein, le monde est un théâtre. Le théâtre, le monde est une scène. Et donc il va dans le monde couvrir des événements ou des temps plus faibles et il installe sans rien dire devant les sujets qu'il a choisis, devant ceux qui participent à la scène du monde, un studio léger, hein, quelques câbles avec quelques spots et dessinant comme ça une scène et sans communiquer avec les sujets photographiés. Il démarre au bout de 20 minutes, une demi-heure, donc en pleine visibilité par rapport à ses sujets, la prise de vue. Il y a une espèce d'accord tacite que puisque ces personnes ne disent rien alors qu'il installe un tel protocole autour d'eux, c'est que finalement ils sont d'accord pour être photographié. Et c'est dans cet espace tacite, en fait, qu'Alex s'engouffre, se définissant comme jouant le rôle du photographe et les sujets vivant leur vie comme étant les sujets photographiés, acceptant de l'être. C'est un peu, si vous voulez, la société d'aujourd'hui, la société où tout le monde se photographie, échange des photos. Place Tahrir, ce sont les manifestants de la Place Tahrir qui ont diffusé les images de l'événement, la Syrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'attend un photographe pour aller témoigner ou révéler en faisant des milliers de kilomètres en avion et en arrivant au-delà de la scène. Et donc aujourd'hui, cette idée que ce monde est totalement photographiable, hein, c'est un peu ce que Maioli révèle, c'est un peu Guy Debord en a rêvé, Maioli l'a fait.
Dans votre dispositif, Alex Maioli, les photos qu'on voit, et on va en parler, ce sont des photos que vous prenez une fois que les gens vous ont oublié, qui se sont habitués à vous, ou ils sont toujours conscients de votre présence ?
Oui, je pense que les moments, le sujet s'est oublié de moi. La réalité, c'est ils se sentent toujours en flèche, s'allumer. Je pense que, mais à certains moments, après 10 minutes, 15 minutes, il y a un renseignement, il dit, oui, ça va, je continue, je sais pas pourquoi il fait les photos, mais je reste là.
Donc, on est quand même dans le registre réaliste, pour ne pas dire reportage. Même si la mise en scène, le développement des images, le format de vos photos exposées au bal, c'est plutôt une démarche artistique et individuelle, le fond des photos, c'est le réel, c'est le théâtre du monde d'aujourd'hui.
Absolument, oui. C'est tout ce qu'il y a dans les photos sont réels. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé. Et c'était pas dirigé. Je parle pas avec eux. Et bien sûr, si vous regardez les images, vous venez que c'est pas impossible. Ils sont tous des Marlon Brando. C'est à 70 Marlon Brando dans les murs. C'est ce moment magique où eux, ils s'est oublié de moi et continuent à faire leur vie et moi, je continue à faire des photos.
Alors, les puissants flashs que vous avez, Alex Maioli, c'est pas juste pour dire aux gens, je suis photographe et je m'installe là, c'est aussi pour obtenir ce que vous obtenez, c'est-à-dire des formats très très sombres, des photos très très sombres, pour ne pas dire noires, où n'apparaissent que les détails de vos sujets.
Oui, si on parle de la part esthétique des photos, je voudrais bien que les gens, quand ils regardent les photos, ils se demandent c'est réel ou c'est pas réel. Parce que c'est comme des scènes cinématographiques, c'est des théâtres. C'est ça, ces moments où le spectateur doit se demander ces choses-là. Parce que s'ils sont des photos sympas flèches, ils sont comme toutes les photos
Ce sont des photos grand format qu'on peut voir de vous, ou des formats de tableaux où les images jouent avec l'obscurité pour n'illuminer que certains détails. Alors comment ne pas penser au clair-obscur dramatique du Caravage, qui lui aussi renseignait toile après toile sur son époque. On peut voir quelques-unes de vos photos exposées au bal à la page du Réveil culturel, disponible en quelques clics à partir de franceculture.fr. On peut voir ici la colère d'un manifestant, là le désarroi d'un réfugié, la solitude d'une Congolaise qui n'attend plus rien, son regard est très parlant, ou bien on peut retrouver le calme, et on sent ce calme précaire dans un pub britannique au lendemain du Brexit. Tiens, d'ailleurs dans ce cliché, on a l'impression qu'on est chez Édouard Aubert, mais les références que vous citez plus généralement dans vos interviews, Alex Maioli, sont plutôt d'ordre littéraire. On a parlé de Luigi Pirandello, vous avez cité une fois Tolstoï, Dostoïevski, Dante...
Oui, c'est juste pour dire que pour moi, la photographie doit sortir de cette idée, c'est relié avec la caméra.
Avec la peinture?
Surtout la peinture. On vient de la peinture avant de la photographie, pour moi, oui, c'est comme ça.
S'il fallait parler maintenant de l'esthétique des photos, Diane Dufour.
Alors, je pense qu'il faut comprendre que Alex Maioli réalise quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'il fait tomber de manière artificielle la nuit sur le jour.
Ouais.
Et il le fait, donc c'est un procédé qui est bien connu au cinéma, qui s'appelle la nuit américaine, de confère le film de Truffaut, mais donc c'est un procédé qui consiste à envoyer des flashs très très brefs, hyper puissants, qui n'aveuglent personne parce qu'on est en plein jour. Donc c'est imaginer des petites étincelles, mais très puissantes. Mais donc qui, parce leur surcroît de lumière, vont donc plonger la scène dans l'obscurité, sauf évidemment le premier plan et les personnages qu'Alex a choisi de photographier. C'est un processus très étonnant. C'est-à-dire, pourquoi faire tomber la nuit sur le jour? Quand on parle de migrants, quand on parle du Brexit, quand on parle de la montée de l'extrême droite en Hongrie, quand on parle de la Chine ou du Brésil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée avec Alex de témoigner. Ces photos ont été vues 1000 fois. Les spectateurs qui viennent au bal ont déjà vu ces photos de migrants, du Brésil, de la Chine. Il n'y a pas de révélation au sens où un photographe peut révéler une situation. On n'est plus dans ce monde-là. Pourquoi ajouter une image de plus de migrants, ajouter une image de plus du Brésil? En fait, c'est la question que pose Alex Maioli. Il pose, mais pourquoi aujourd'hui photographier le réel? Alors lui, il répond d'une manière, voilà, qui est sa manière, j'allais dire italienne, qui utilise l'ambiguïté entre le document et le théâtre, qui a priori sont des notions totalement antinomiques, étrangères, et qui lui, par ce dispositif qu'il va conjuguer, non pas pour les opposer, mais au contraire pour les exacerber, et en fait dire que aujourd'hui un document ne peut être que théâtral, parce que nous vivons dans ce monde qui a conscience que tout est photographiable, tout va être photographié, tout l'a déjà été, et donc comment renouveler notre regard sur le monde?
Si on parle de théâtre, c'est dans le travail d'Alex Maioli, les décors disparaissent. On est dans l'humain, on est dans le regard, on est dans la position, on est dans l'observation des caractères humains.
Alors oui, mais par exemple, vous parliez de cette photo du Brexit sur laquelle on peut revenir. Il y a donc ces traders qui, le jour de l'annonce du vote du Brexit, se retrouvent dans ce bar au cœur de la City qui s'appelle Jamaica Inn. On voit qu'ils sont totalement dépités, qu'ils sont venus dans ce pub pour peut-être boire et oublier cette décision qu'ils anticipent comme désastreuse pour leur vie et leur carrière. Et là, Alex les prend. Donc là, le décor est bien réel. On voit tous les détails des colonnes, des ombres comme ça de ces traders. Et donc, il y a un sentiment diffus de l'image qui n'est pas de l'ordre du journalisme, qui n'est pas de l'ordre de l'information ou du témoignage, qui est plutôt de l'ordre de la sensation que ce théâtre, de ce moment-là, de cette journée-là, qui est pour eux exceptionnelle, est marqué par cette image où ils sont tous suspendus. Suspendu à l'histoire, suspendu à leur rôle, suspendu à une décision collective qui leur a échappé. Et donc, quelque part, il y a quelque chose qui est dit sur notre époque. Bien sûr, sur leur situation, mais aussi sur notre époque.
Alors que moi, j'y ai vu surtout une somme de solitude, d'où la référence à Édouard Hopper.
Alors, je pense que vous avez tout à fait raison, parce que dans les images d'Alex, il y a cette maestria, vous savez ce mot italien que j'aime beaucoup, être maestro, c'est-à-dire vraiment de dominer la technique. Et Alex domine tellement la composition, le cadre, les lumières. Et n'oubliez pas qu'il photographie quasiment à l'aveugle, parce que quand il envoie ses flashs super puissants, il ne voit pas donc ce qu'il photographie, puisqu'il voit le jour et la couleur, alors qu'il photographie pour rendre la nuit et le noir et blanc. Donc il y a une vraie maestria qui est développée par la prise de vue et qui se traduit dans ces images où il y a une forme d'énigme qui s'instaure. Et moi je dis toujours que dans cette exposition, ça n'est pas tant le sujet de ce que Alex a photographié, ça n'est même pas tant l'incroyable dispositif qu'il a mis en œuvre, que la réaction du spectateur. Que vont penser les spectateurs? Est-ce que ces images paraissent trop théâtrales? Est-ce que c'est comme le théâtre de la vie? Elles reflètent le théâtre de la vie? Est-ce que ces images vont questionner? On peut faire appliquer ce dispositif au Brexit, mais pas à des migrants? Ah bon? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des images sur lesquelles on peut appliquer un dispositif et d'autres non? Est-ce qu'il y a différents régimes de réel qui demanderaient différents régimes de représentation? C'est ça les vraies questions que pose l'exposition d'Alex.
En tout cas, il y a quelque chose qui semble peut-être très clair dans vos photos sombres, c'est votre envie de ne pas être journaliste, vous qui travaillez pour l'agence Magnum, parce que même les journalistes deviennent des comédiens de votre théâtre. Cette photo, on voit une journaliste interviewant des personnes, renvoie effectivement au fait que celui qui regarde cette scène ne peut pas être un journaliste.
Oui, on est beaucoup de choses dans notre vie. Non, oui, je pense que de toute façon, dans ces photos que vous parlez, le mec il est avec.
Oui, avec les menottes. Donc oui. Il y a une situation dramatique. Il y a une journaliste qui interviewe quelqu'un qui vient d'être arrêté apparemment, comme si c'était une scène effectivement de théâtre ou de cinéma, comme une manière de rappeler que. Ce n'est pas le témoignage d'un journaliste.
C'est surtout des théâtres. Cet moment, vous parlez, c'est quelque chose qui se passe beaucoup en Brésil, qu'il y a quelqu'un arrêté, et il y a toujours une caméra, une vidéo, un journaliste qui, avant même le juge, qui doit savoir qu'est-ce qui s'est passé, il demande si vous êtes coupable ou non de quelque chose que vous avez fait. Et ça, c'est déjà une scène de théâtre comme ça pour moi, dans les yeux d'une Italienne qui, avant d'être interroguée, un journaliste doit passer dans le juge, surtout.
Alex Maioli, Diane Dufour, disait que votre prouesse était aussi de photographier à l'aveugle. Est-ce que, avant de commencer à photographier, qu'est-ce que vous réglez? Vous réglez le cadre? Comment vous préparez une photo, une séance photo?
Je marche, je pas préparé, je marche, je regarde, il y a des choses qui m'intéressent plus que moi, mais comme, qui sont subjectifs, je pense, et je commence, je donne l'ordre à mon assistant de commencer avec la lumière, moi-même je commence à mettre la lumière, et je commence à faire photo de cette chose. Et des fois, il y a des gens qui sortent, des gens qui entrent, mais il y a toujours un, deux sujets qui restent, et comment s'oublier de moi. Et c'est un moment où je suis oublié et tout ça devient théâtre.
Vous les recadrez, vos photos, après? Vous les retouchez?
Non, pas retoucher, c'est-à-dire contraste. Oui, j'ai fait des courbes, des contrastes, normal, comme dans le darkroom.
Et pour le cadre?
Non, jamais les recadrer. Jamais, petit peu, peut-être, non, jamais.
Le travail impressionnant de Alex Maioli est actuellement exposé au Bal à Paris. Scène, tel est le titre de son exposition.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Le grida della strada, i passanti negozi dove come un insulto ti vai a rispecchiare tra gioielli da poco e biancheria da niente, ombre in occhi di donna che ti vedono passare, tutti questi rumori cante di profumi dentro ai quali ti immergi, nei quali ti esilio per amarti da lungi in un gioco sottile, questi trucchi un po' pazzi, tutto questo è il tuo stile, il tuo stile, il tuo culo. Il tuo culo è la mia legge a cui ti pieghi, maledetta, e quel fuoco che accende ogni mia sigaretta, e l'amore in ginocchio
che non conosce scalo, il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo. I porti della notte, quel bimbo che vorremmo e non vogliamo più, un tuo minimo segno, quando noi mescoliamo nel fondo del tuo bene sangue della mia uva, vino della tua vigna, tutto questo riappare come in nostra memoria dentro ai mondi perduti dell'anno 80.000. Quanto non ci saremo, torneremo a nascere, questi trucchi un po' folli, tutto questo è il tuo stile, il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo e il tuo diritto, quando diritto al tuo stile e il gioco dell'inferno giocato a testa o croce e l'amore che tace quando non hai più voce, il tuo stile e il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo.
Un travail photographique de 8 années de captation de diverses situations humanitaires à travers le monde. C'est le travail d'Alex Maioli, exposé en ce moment au BAL à Paris jusqu'au 28 avril. Des manifestations politiques, des urgences humanitaires, des solitudes ici ou là, et aussi le beau bizarre, comme disent les poètes. Et c'est la notion de théâtralité que pose cet artiste et son exposition. D'ailleurs, dans le magnifique catalogue qui accompagne cette exposition, Corinne Rondeau dit que scène n'est pas soumise à l'ordre du jour, à l'idéal de la lumière, mais au désordre du monde, un monde où Icare remonterait des fonds de la mer. Scène est une torsion de la visibilité, ce qui ressemble à des compositions, n'est en vérité que des effractions de réalité. Diane Dufour, c'est bien dit.
Oui, Corinne a écrit un texte très poétique pour le livre. David Campagny, un autre texte très didactique. Et entre les deux, bah voilà, se situe tout l'espace entre documents et théâtralité, qui sont exactement les deux pôles, en fait, les deux aimants sur lesquels s'articule l'exposition d'Alex.
Alors, Alex, vous, Alex Maioli, vous, par exemple, quand on vous demande de donner une explication à vos photos, quelle réponse faites-vous ?
Le spectateur, Diane l'a bien dit avant, le spectateur se doit questionner et donner eux-mêmes les réponses. Parce que moi-même, quand je regarde ces photos, je me souviens de tous les moments que j'ai pris les photos. Je me souviens de l'intuition, je me souviens de la motivation que j'ai commencé à initier à faire ce boulot, ce projet photographique. En tout cas, j'ai toujours, on répète, Pirandello il a dit, così è se vi pare. C'est comme ça, se vous croyez ça. Et pour moi, c'est quand vous regardez ces photos, pour moi, ça doit être comme ça. Vous devez faire votre idée de réalité. Vous devez se questionner dans votre même vie et pas vraiment qu'est-ce que vous regardez dans les photos.
Votre travail en tant qu'artiste, cette fois-ci, Alex Maioli, c'est bien sûr de prendre les photos. Vous avez votre regard de photographe. Vous avez aussi votre technique, mais c'est aussi le choix des photos que vous faites avant les expositions.
Fréquemment, le choix, c'était Diane et David Campagny qui l'ont vraiment fait un travail incroyable de choix. Je suis arrivé avec 300 images, je pense que c'était édité. Et elle, on a travaillé à Londres, mais eux, elle a fait tout le travail d'éditing.
Et vous-même, Diane Dufour, vous qui êtes la commissaire de l'exposition, s'il fallait expliquer le travail d'Alex Maioli, diriez-vous qui nous renseigne quand même sur l'état de nos sentiments dans le monde d'aujourd'hui?
Je pense qu'il renseigne beaucoup sur nos attentes de ce que la photographie, et notamment la photographie documentaire, comment peut-elle se positionner par rapport à un temps long. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce monde, moi je pense que ce travail d'Alex Maioli n'aurait pas du tout pu être réalisé il y a 15 ans, il y a 20 ans, au moment où l'obsession de tout le monde était le droit à l'image, et on comprend bien pourquoi. Aujourd'hui, ça n'est plus le sujet. Aujourd'hui, c'est un peu comme si Alex pointait son projecteur sur une société du spectacle qui a elle-même conscience de, d'être totalement partie prenante de ces ficelles de, scéniques. Et donc Alex, en fait, ne fait qu'activer ce mode mi-réel, mi-fiction que nous avons tous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les conditions dans lesquelles il opère, en fait, reflètent intimement ce que nous pensons des images dans un flux de milliards d'images échangées, où une information chasse l'autre, où une image contredit une autre, où la thèse du complot s'installe au milieu d'images totalement journalistiques, réalisées par des professionnels. Donc, c'est la question de la vérité qui est posée. Quelle est la vérité véhiculée par une image réalisée dans des conditions du document? Et comme dit ma fille à propos des photos d'Alex, en fait, Alex Maioli monte le son. C'est-à-dire qu'il monte le son du réel et il monte le son de la fiction, de la théâtralité, comme voilà, pour pointer en fait le désordre de la représentation.
Est-ce qu'il y a des références cinématographiques? Il y a une photo que j'aime beaucoup dans cette exposition. C'est un gamin qui a l'air tout droit sorti d'un film de Rossellini ou de Vittorio De Sica. Et si ça se trouve, ce n'est même pas en Italie. Et pourtant, c'est quoi l'histoire de cette photo? On peut la retrouver, bien sûr, à la page du Réveil culturel.
Oui, cette photo, c'est un immigrant qui est en Lesbos et il attend les bateaux pour aller à Athènes. Ça, c'est la légende. En référence à la question des cinématographies, oui, Rossellini bien sûr, mais Pasolini pour moi c'était une grande référence cinématographique. Et je vois beaucoup de Pasolini dans cette image.
Et il y a aussi du Pasolini, mais ça peut être aussi le petit voleur de bicyclette.
Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, mais ce sont c'est des cinémas dans l'école italienne, on a grandi avec ça. C'est obligatoire montrer l'adri bicyclette en Italie.
Alex Maioli, comment êtes-vous devenu photographe? Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier?
Mon père m'a donné. Mon père, c'est très dramatique. Non, c'est pas. Il s'est séparé avec ma mère. Il adorait faire les photos. Pour moi, je pense psychologiquement, c'était une manière pour rester à côté de mon père. Quand j'étais très jeune, à 7 ans, et j'ai jamais fini de faire ça. Et à 15 ans, j'ai commencé à faire la photographie en manière professionnelle. On m'approchait dans une idée pour gagner de l'argent aussi, à 15 ans.
Vous avez appris donc tout seul? Vous êtes un autodidacte?
Oui, donc, j'ai des maîtres, j'ai deux personnes très importantes dans ma vie. C'est Daniele Casadio, Être malin, que je dois nominer ça, qui m'a enseigné tout. Ils ont aussi été des pères pour moi.
Alors, elle disait que c'était très important le fait que vous soyez né et grandi à Ravenne, Diane Dufour. Pourquoi?
Alors, parce que Alex raconte en partie son histoire, mais il y a une chose qu'il ne dit pas et qui est très belle, c'est que quand à 15 ans, il veut un peu échapper aussi au fait de devenir docker comme son père, il va rejoindre ce studio qui s'appelle F15, donc de Ravenne, dont il a mentionné le maître, et qui va le prendre en apprentissage. Et il se trouve que dans ce studio de Ravenne, donc dans les années, disons milieu des années 80, il y a deux choses qui se passent qui vont marquer Alex. La première, c'est que les gens, les familles riches du nord de l'Italie viennent se faire tirer le portrait. Et donc, Alex va très très tôt maîtriser l'art du portrait auquel vous avez été sensible et qu'on retrouve énormément dans ces photos. Et la deuxième chose, c'est que les grands conservateurs des musées italiens viennent apporter les Caravage, les Bellini, la grande peinture italienne pour qu'elle puisse être photographiée et donc reproduite dans des catalogues. Et Alex va être donc très tôt, à 15 ans, au contact de cette grande peinture italienne, sans même aller dans les musées. En fait, cette grande peinture italienne vient à lui. Et quand vous citiez le Caravage, vous citiez Hopper, mais on peut citer beaucoup d'autres influence picturale dans le travail d'Alex. Mais c'est vrai qu'on sent que dès le départ, même sur une présentation d'une des séries au bal sous forme de grille assez monumentale, il évoque la chapelle Scroveni à Padoue de Giotto. Donc on sent très bien que c'est par cette fibre de la peinture italienne que finalement, et de son travail de photojournaliste et de sa sensibilité théâtrale, vous voyez, c'est ça qu'en fait, c'est cette complexité mais cette ambiguïté aussi auquel on est confronté avec le travail d'Alex qui en donne toute la richesse et peut-être le fait que personne d'autre qu'Alex finalement n'aurait pu marcher dans ses pas.
Scène, c'est le titre donc de l'exposition de photos d'Alex Maioli jusqu'au 28 avril au bal. Merci beaucoup Alex Maioli d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Diane Dufour. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Goat, du chorégraphe Ben Duke. Compagnie emblématique et novatrice outre-Manche, le ballet Rambert et le chorégraphe britannique Ben Duke rendent hommage à Nina Simone. Sur scène, 16 danseurs, une chanteuse et des musiciens en live créent ce spectacle engagé, à l'énergie et à l'humour réjouissant. Goat avec le ballet Rambert, du 16 au 26 avril au Théâtre des Abbesses à Paris. Un partenariat France Culture. 10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Erler.
Superfail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Superfail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Superfail, Guillaume Erler, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous consacrerons ce journal à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a eu lieu hier. Cathédrale éventrée par le feu, sa flèche est tombée. Nous irons sur le parvis de la cathédrale ce matin et nous revivrons la frayeur d'hier soir avec nos envoyés spéciaux. C'est donc un symbole qui est touché, un symbole debout depuis 8 siècles. La classe politique s'en émeut autant que les Parisiens, les touristes, les chrétiens ou non. Un symbole du patrimoine français et européen également. Emmanuel Macron lance aujourd'hui une souscription nationale et internationale, vous l'entendrez. Et puis nous irons à Chicago, aux États-Unis. Comme dans le monde entier, l'émotion outre-Atlantique a été grande également. La première alarme a retenti à 18h30 hier soir dans la cathédrale. Le feu est maîtrisé par les pompiers depuis 3h cette nuit, maîtrisé et partiellement éteint après donc 9h de lutte contre cet incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce matin, Sandrine et toi, Andeg, est sur le parvis de la cathédrale où, après une soirée et une nuit agitées, les Parisiens, les touristes reviennent sur les lieux petit à petit.
Un groupe qui ne cesse de grossir, de Parisiens, de touristes qui me confiaient qu'ils n'ont pas pu fermer l'œil de la nuit. Et ce matin, ils avaient besoin de la voir, cette majestueuse Notre-Dame. Ils avaient besoin de se rassurer sur son état. C'est le cas de Soliane, elle a 21 ans. Elle arrivait tout à l'heure sur son vélo, très émue.
Il est très tôt, j'ai pas beaucoup dormi parce que c'est un monument parisien que je connais depuis que je suis toute petite et que j'étais pas tranquille à l'idée de pas pouvoir suivre ce qui se passait et de pas pouvoir savoir où ça en était. C'était beaucoup d'inquiétude et un certain sentiment d'être abasourdi parce que ça paraît inimaginable en fait. La voir comme ça me rassure quand même, même si on voit d'ici qu'elle est noircie et que... inévitablement il en manque une partie, mais ça me rassure de voir quand même les deux tours qui tiennent et qui ont résisté.
Voilà les deux tours, les deux célèbres tours noircies de Notre-Dame, mais toujours debout. On le sait, la structure de l'édifice a été sauvée après cette longue épreuve contre les flammes. La charpente est dévastée. On peut voir ce toit sans sa flèche se vide. Les trésors les plus importants ont pu être sauvegardés. C'est ce que me disait tout à l'heure l'un des vicaires généraux de la cathédrale. Il parle d'un moment miraculeux, héroïque, et il salue plusieurs fois le travail formidable des pompiers.
Sandrine et toi, Andeg, depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame ce matin, la cathédrale qui est donc éventrée, coupée de sa flèche surmontée de la croix de Notre-Dame, un symbole de la tragédie. Cette flèche s'est effondrée en début de soirée hier, sous le regard médusé des milliers de personnes, là encore parisiens, touristes, pas forcément croyants. Mathilde Dehimy était alors sur place avec son micro.
Une clameur. La foule saisit d'effroi quand la flèche dévorée par les flammes s'effondre. Sacha tremble tellement qu'elle cherche ses mots.
J'ai hurlé en fait quand ça s'est effondré, quand on a vu la tour. Je sais pas, j'ai heureusement de pas être plus près que ça parce que on a vraiment vu la tour complètement s'effondrer devant nos yeux. Je pense que c'est un moment assez fort. J'espère juste que ça va être réparable.
Spontanément, la jeune fille serre une inconnue en larmes dans ses bras.
On a vu cette tour en fait vraiment tomber. Je l'ai vu pleurer. Moi, je me suis mis à crier. Je lui ai tendu les bras, elle est dans mes bras, et du coup, on est resté un moment dans les bras. Juste.
Autour d'elle, les gens pleurent. D'autres regardent l'immense nuage de fumée qui comble le vide laissé par la flèche. L'incendie redouble d'intensité. Robin tient à saluer les pompiers.
Les pompiers ont eu du mal à intervenir. Il y en a beaucoup qui ont pris des risques. Ils étaient postés à des positions très sensibles. Les lances étaient dans un premier temps trop courtes. C'était malheureusement trop tard. L'effondrement d'un premier temps de la nef arrière. derrière, puis ensuite de la Grande Flèche, qui a été un peu le moment crucial.
Sans sa flèche, Notre-Dame de Paris est défigurée. Parisiens et touristes partagent l'espoir de l'avoir reconstruite un jour.
Et la cathédrale, justement, sera reconstruite. Nous la rebâtirons. Voilà ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place, reportant sine die sa conclusion du grand débat national, son allocution et les mesures qu'il devait annoncer en réponse à la contestation des Gilets jaunes. Le chef de l'État a donc à la place promis pour la reconstruction de la cathédrale le lancement d'une souscription nationale et internationale afin de trouver des fonds suffisants. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron.
Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame, parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond.
Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place, donc sur le parvis de la cathédrale hier soir, cette nuit. Soulignons d'ailleurs, à propos de la souscription nationale et internationale, soulignons que la famille Pinault a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour participer à la reconstruction du bâtiment. Des fonds venus de la société d'investissement de la famille Artemis. Car que faut-il reconstruire, que faut-il restaurer aujourd'hui? La charpente, au moins, qui a été détruite, nous le disions, aux deux tiers, mais également peut-être quelques œuvres ou objets rares. Les pompiers ont pu hier en sauver de l'incendie, notamment la tunique de Saint-Louis et la couronne d'épines. Alexandre Gady est un universitaire français, historien de l'architecture. Il est engagé dans la mise en valeur et la défense du patrimoine et il pose la question de la préservation de ce patrimoine français. Question qui se pose d'ailleurs depuis l'incendie, notamment de la cathédrale de Nantes en 1972.
On avait considéré qu'il fallait plus que le public puisse accéder dans ces trésors archéologiques qui étaient ces grandes charpentes, qui étaient des véritables conservatoires de l'histoire de la charpenterie. Celle de Notre-Dame était du XIIe et du XIIIe siècle, avec tous les bois en place, bien sûr restaurés, mais dans un état de conservation, pour tous ceux qui ont eu la chance de le voir, tout à fait étonnant. Et donc une immense tristesse, aussi un peu de colère, bien sûr, parce que on pense à l'état du patrimoine en France, qui n'est pas du tout au niveau d'un grand pays, comme on le pense peut-être couramment, parce que depuis des années, on a toujours renié les budgets, cherché des pis-allers, jusqu'au dernier, qui est le loto. Tout ça est très sympathique, mais le patrimoine, c'est une charge régalienne. C'est l'image de la France, c'est notre histoire, et à force de toujours faire des petits bouts de trucs à droite et à gauche, on finit par mettre en danger le patrimoine.
L'historien de l'architecture Alexandre Gady, qui sera d'ailleurs notamment l'un des invités des Matins de France Culture avec Guillaume Herner à partir de 7h40. Alexandre Gady sera à nos côtés à 8h20 pour parler de cet incendie de la cathédrale. La faute à qui après cet incendie? La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale retient l'attention des enquêteurs pour le moment. Un départ de feu accidentel donc. Le parquet de Paris a ouvert dès hier soir une enquête pour destruction involontaire par incendie. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier ont commencé à être entendus cette nuit. Nous reviendrons évidemment longuement sur cet incendie et sur ses conséquences dans la matinale de France Culture ce matin, à la fois sur le symbole, l'enquête et la question de l'entretien du patrimoine. Cette actualité a en tout cas dépassé les frontières dès hier, de Berlin, Londres, Washington jusqu'au Vatican ou à Jérusalem. Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal, réagit la chancelière allemande Angela Merkel. La première ministre britannique Theresa May a, elle, adressé ses pensées à la population française quand son homologue belge Charles Michel évoque une part de l'histoire de France et de l'Europe. Au Vatican, le Saint-Siège dit avoir appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle, exprime sa proximité avec les catholiques français et les parisiens. Et puis aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, l'émotion également a été assez grande, Grégory Phillips.
Des pompiers de New York à Barack Obama, les messages de solidarité se sont multipliés toute la journée d'hier. Le plus rapide à avoir réagi à cet incendie diffusé en direct sur la plupart des chaînes de télévision américaines, c'est Donald Trump qui, depuis son avion Air Force One, écrit sur Twitter que c'est horrible de regarder ainsi ces flammes. Agissez vite, il faut utiliser des avions bombardiers d'eau, conseille le président américain. Sur le même réseau social, en anglais, la sécurité civile française lui répond que cela aurait encore plus fragilisé la structure de l'édifice. Un peu plus tard, Donald Trump, en déplacement dans le Minnesota, explique à des journalistes que le monde a perdu l'un de ses plus beaux trésors. Son prédécesseur à la Maison Blanche, Obama, publie une photo de sa famille priant à Notre-Dame et écrit qu'il faudra reconstruire. Pour les Américains, la cathédrale était, lors d'une visite en Europe, un monument incontournable dont on retrouve l'influence architecturale ici, par exemple à Chicago, où dans les années 30, plusieurs gratte-ciels ont été bâtis dans le style néo-gothique. En levant les yeux, on cherche et on trouve dans le ciel de Chicago des traces de Notre-Dame de Paris, aujourd'hui dévastée.
Grégory Philips depuis Chicago pour France Culture. Autre réaction, celle du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans un communiqué en français qui exprime sa solidarité. Quel triste spectacle, quelle horreur, dit-il. Je partage l'émotion de la nation française. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré horrifié par les images de l'incendie. Images qui, évidemment, ont fait le tour des télévisions, des réseaux sociaux dès hier soir. Un voile de nuages va s'imposer toute la matinée ce mardi au-dessus de la capitale Notre-Dame de Paris, au-dessus de la Bretagne et jusqu'aux Pyrénées également. De la pluie est prévue sur les trois quarts est du pays. Voilà pour les prévisions de Météo France en ce mardi. Ce matin, il fait 10 degrés à Rouen, 12 à Paris, Lille, Besançon, Nantes et Lyon, 14 degrés à Bordeaux. Et puis la maximale ce matin, elle sera à Nice avec 15 degrés. Il est 6h40, vous écoutez France Culture et Jacques Munier nous a rejoint. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Pour votre journal des idées, vous vous intéressez ce matin aux communautarisations des esprits, les actions des groupes dits décoloniaux contre des manifestations culturelles jugées racistes, dénotent la montée en puissance des sentiments identitaires, Jacques.
Oui Clara, des sentiments qui semblaient jusqu'à présent réservés à une forme de nationalisme exclusif défendu par l'extrême droite. Couvert d'antiracisme, c'est en miroir une même revendication sommairement identitaire qui se développe. Tout récemment, l'exposition Toutankhamon, dont les organisateurs sont accusés de dissimuler l'origine africaine du roi égyptien, ou une pièce d'Eschyle chahutée à la Sorbonne au prétexte que des comédiens arboraient des masques noirs assimilables au blackface américain du temps de la ségrégation. Ce que Laurent Bouvet désigne dans le Figaro Vox comme un tournant identitaire a conduit à des mobilisations sociales et politiques nouvelles, à la redéfinition des clivages politiques comme à l'émergence de nouveaux champs de recherche en sciences sociales ou à des stratégies marketing de nombreuses entreprises, de médias, etc. Sans pour autant se bercer d'illusions quant aux valeurs humanistes et universalistes de notre société, force est de constater que des activistes identitaires, indigénistes, décoloniaux, intersectionnels, islamistes, dont la vision du monde est à la fois essentialiste et relativiste, ont entrepris de lui mener une guerre culturelle. Comme le relève Étienne Girard et Adrien Matou dans Marianne, ce nouveau prisme chamboule tous les fondamentaux de la gauche française. Contre l'universalisme républicain, le pacte social qui cherche à promouvoir l'égalité entre tous, ces mouvements proposent de recentrer la lutte contre les discriminations autour de l'exaltation des identités. Les journalistes rappellent les origines américaines de la notion d'intersectionnalité qui vise à analyser la manière dont différentes formes de discrimination liées à la couleur de peau, au genre, à l'orientation sexuelle ou à la classe sociale peuvent s'additionner et créer des problèmes spécifiques. Reste que cette sacralisation de l'identité justifie l'organisation d'événements interdits aux dominants, hommes, hétérosexuels, mais aussi blancs, pour partager l'expérience minoritaire. Le sociologue Manuel Boucher, auteur de La gauche et la race, explique que les identitaristes ont le vent en poupe car le discours marxiste et républicain a échoué. Dans Le Monde, Camille Stromboli relève que les incidents se multiplient dans les universités. Jean-François Ballaudet, le président de Nanterre, évoque une sensibilité qui émane d'associations étudiantes très minoritaires qui portent des revendications fortes en termes de lutte antiraciste et qui, pour quelques-unes, ont tendance à faire une lecture raciale des politiques que conduisent les universités. Face à elles, un réseau s'est constitué qui liste les opérations de censure organisées par les décoloniaux. Michel Dreyfus, directeur de recherche émérite au CNRS et membre du réseau, souligne que les études postcoloniales, nées en Inde et aux États-Unis, sont tout à fait légitimes, mais l'idéologie décolonialiste qui en émane conduit à une fragmentation de plus en plus grande entre diverses diverses minorités, avec une montée des crispations identitaires. Une bonne raison pour se plonger dans l'ouvrage de Max Weber qui vient de paraître à la Découverte, « Les communautés », c'est son titre. Le sociologue y passe en revue l'ensemble des facteurs économiques, historiques, religieux, militaires, juridiques ou culturels qui entrent en synergie pour constituer des communautés. Loin de tout déterminisme historique ou culturel, il s'emploie à dégager les logiques qui les soudent au-delà des sentiments d'appartenance qu'il ramène, que Max Weber ramène donc à des croyances, et notamment l'identité, quels que soient les éléments objectifs qu'elle mobilise, langue, religion, tradition culturelle, ressemblance physique, similitude des habitus, etc. Le concept de communauté ethnique se volatilise pour qui s'attache à une conceptualisation exacte, écrit-il, ce qu'il rapproche de celui de nation. C'est que la vraie dynamique communautaire n'est pas là. Elle consiste dans la monopolisation de l'accès à des biens, matériels ou symboliques. Max Weber parle aussi de chance de vie, au bénéfice des membres d'une communauté déterminée, d'où une logique de fermeture et d'exclusion à l'encontre de ceux qui sont à l'extérieur. Dans sa postface, Catherine Colliot-Hélène souligne que cette distinction entre l'élément commun d'adhésion à la communauté et sa logique propre permet de percevoir le caractère contingent des identités collectives. C'est en cela que les analyses de Max Weber peuvent être utiles à notre époque de crispations identitaires. La distinction entre l'intérieur et l'extérieur des communautés, conséquence de l'appropriation collective monopolistique de certaines catégories de chance, a tendance à se durcir dès lors que ce monopole se trouve subjectivement justifié par une identité supposée des membres de la communauté. Un facteur essentiel de sa pétrification. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Yémen sous pression.
C'est ça, Pression diplomatique avec cette nouvelle annonce d'accord obtenu au Conseil de sécurité de l'ONU sur un retrait des belligérants du port de Hodeïda hier. Alors les forces houthistes rebelles et les forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition du Golfe sont donc censées se retirer de la ville depuis un accord conclu à Stockholm fin 2018, mais sur le terrain, c'est vrai que la calme tarde, en dépit des pressions internationales qui s'accentuent. Sans doute, on en parle avec vous, François Frison-Roche, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur CNRS, spécialiste du Yémen. D'ailleurs, vous allez publier un article « Yémen, un contexte régional déstructuré » dans quelle revue prochainement ?
La revue Politique étrangère qui devrait sortir prochainement.
Voilà. Alors qu'on en vienne à la situation du terrain, cette annonce de plan de redéploiement détaillé par l'ONU, c'est la troisième annonce, je crois, de ce type depuis l'accord de Stockholm en décembre. Jusqu'ici, forces houthistes et forces de la coalition se sont accusées mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a des raisons de croire aujourd'hui, plus qu'avant, à un retrait effectif de Hodeïda ?
Bah, il faut l'espérer pour les Yéménites, il faut l'espérer aussi pour, j'allais dire, le renom de l'ONU. Vous indiquiez que les accords ont été signés au mois de décembre. Nous sommes quand même maintenant au mois d'avril. Il serait peut-être temps, en effet, que ces accords puissent être mis en œuvre pour ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire arriver l'aide humanitaire au Yémen. Je rappelle que c'est quand même 18 millions de personnes qui sont en état de quasi-famine à l'heure actuelle.
Alors ça, c'est pour les pressions internationales. Autre ordre de pression internationale qu'on voit en ce moment de plus en plus, ce sont les pressions des ONG qui se multiplient pour obtenir d'un certain nombre d'acteurs étrangers qui cessent leur vente d'armes à certains des belligérants. La France, les États-Unis aussi, il y a eu une demande hier de l'ONG Crisis Group aux États-Unis de réduire leur soutien à l'Arabie Saoudite. Pour la France, c'est principalement des armes vendues aux Saoudiens, mais aussi des canons aux Saoudiens ou des chars Leclerc aux Émiratis. À quoi est-ce que ces demandes peuvent aboutir à tarir effectivement les flux d'armes, à votre avis ?
Je ne pense pas que ça va tarir les apports en armement, parce que ce sont des pays qui ont pu faire des stocks aussi. Et donc, je ne pense pas que à court terme, cela puisse avoir vraiment un impact. Maintenant, c'est vrai que la menace d'une suspension ou d'un arrêt des ventes d'armes reste peut-être maintenant le seul moyen de faire plier ces deux puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats pour qu'ils décident enfin de concevoir qu'il serait nécessaire, normal, de se mettre autour d'une table. Alors, peut-être que ces pressions sont absolument nécessaires. Encore faut-il que les principaux pays concernés, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France de manière relativement marginale, hein, sur le montant des contrats, la France est loin d'être le principal fournisseur de ces pays. Mais c'est peut-être, je crois, le meilleur moyen de forcer ces pays à se mettre autour d'une table. Maintenant, vous savez, il y a un autre problème qui va, une autre question qui va se poser. J'ai lu récemment que le Paris-Dakar devrait se dérouler en Arabie Saoudite.
En 2020,
j'attends de voir justement quelle sera la réaction de ces différentes ONG pour concernant, comment dire, cette manifestation sportive.
Ouais. À voir si le plaidoyer sera aussi appuyé. Par contre, autre ordre de facteurs internationaux qui interviennent et qui changent en ce moment, c'est la situation régionale que vous appelez déstructurée, justement, dans votre article. Là, on voit le Soudan qui bouge beaucoup, le Soudan qui est un des appuis au sol important de la coalition, puisqu'il y a beaucoup de combattants du Darfour qui sont employés comme combattants de la coalition. Hier, il y a eu une annonce du numéro 2 du Conseil militaire qui se veut rassurant. Nous tiendrons nos engagements à l'égard de la coalition arabe. Est-ce qu'il y a un risque d'affaiblissement de cette coalition si le Soudan vacille ?
Ah ben oui, évidemment, car c'est un des paradoxes de cette guerre, c'est que l'Arabie Saoudite, par exemple, ne veut pas envoyer de troupes au sol. Donc elle a trouvé finalement des mercenaires et elle a acheté en quelque sorte l'appui politique du Soudan en lui promettant un certain nombre d'investissements. Le régime, l'ancien régime maintenant, on doit dire, du dictateur soudanais, on avait besoin. Maintenant, est-ce que le Soudan va aller jusqu'au bout? Je pense que oui, parce que les troupes envoyées sont sur place et puis on n'est pas au Soudan comme dans une démocratie avec une opinion publique qui serait capable de refuser cet envoi de troupes. Mais cela pose quand même la question...
Si c'est un régime civil, par exemple.
Comment ?
Si c'est un régime civil, dans ce cas-là...
Voilà, il pourrait décider que... il y aura un terme de mis à cette participation guerrière.
Et aujourd'hui, sur le terrain, on parlait donc de la situation à Hodeïda qui piétine, hein, cet accord qui n'est pas appliqué. Quelle lecture est-ce que vous pourriez faire des intentions des belligérants? Donc il y a non seulement pas de retrait de Hodeïda ni de Taïz, il y a des bombardements qui continuent régulièrement à Sanaa, plus au nord aussi à Saada. Qui est-ce qui a véritablement envie d'arrêter la poussée aujourd'hui et l'offensive?
Mais manifestement, la coalition, les deux principaux pays de la coalition, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ne veulent pas arrêter cette guerre. Parce que s'il y a eu les accords de Stockholm concernant Hodeïda, c'est parce que quand même l'Arabie Saoudite se trouve dans une position de faiblesse après l'assassinat de ce journaliste Khashoggi en Turquie. Donc les États-Unis ont pu faire pression pour que finalement il y ait ces négociations. Mais bon, je pense que la volonté politique n'est pas solidement enracinée dans ces pays-là. Ils ont envie d'en découdre, ils ne veulent pas perdre la face. Et donc, par tous les moyens, ils vont essayer d'annihiler les rebelles houthis. Donc, ils demandent par exemple qu'il y ait un cessez-le-feu à Hodeïda, mais en même temps... ils attaquent dans le nord, où ils sont aussi dans la ville de Taïz. Évidemment que les Houthis disent « Attendez, on négocie un cessez-le-feu et puis on nous attaque ailleurs ». Il faut essayer de trouver une espèce d'équilibre. Et c'est là où je crois l'ONU n'a pas véritablement compris la complexité et la globalité du problème yéménite. Si on veut que ça s'arrête à Hodeïda, il faut que ça s'arrête partout et qu'il y ait une négociation globale.
Et de ce point de vue-là, alors, est-ce qu'on a affaire, selon vous, plutôt à une rhétorique de la victoire de la part des belligérants, mais aussi bien là, saoudiens que houthistes? Parce que vous signalez aussi dans votre article quelque chose qui est intéressant, dont on parle peu, c'est les tensions locales ignorées qui se multiplient un peu dans tout le pays, que vous appelez bombe à retardement, et qui pourraient prendre à revers, en fait, ces deux belligérants qui ne sont pas du tout les seuls sur le terrain. En fait.
Oui, exactement. Il y a quantité de milices qui ont été formées. Au départ, c'était pour lutter contre la descente des Houthis et des forces militaires fidèles au président Ali Abdallah Saleh dans le sud. Donc, notamment les Émirats ont mis en place ces milices, les ont armées, les ont formées et les payent. Mais ce sont maintenant des milices qui sont pour l'indépendance du sud. Et ce sont des milices qui vont éventuellement même lutter contre les forces qui sont fidèles au l'actuel président Hadi, qui est reconnu internationalement. Donc c'est aussi un paradoxe de la guerre au Yémen. Les Houthis sont très bien aidés par les dissensions, non seulement entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, parce qu'il y a aussi manifestement des problèmes, mais aussi sur le terrain entre les forces qui sont en train de se battre. Parce que certaines forces fidèles, par exemple, ou contrôlées par les Émirats, luttent contre des forces yéménites proches du président Hadi, soutenues par le parti Al-Isla, c'est-à-dire les frères musulmans.
Oui, ça veut dire que le format des négociations aujourd'hui entre deux belligérants n'est pas adéquat. Alors,
ben justement, on n'est plus dans le format 2015, on est maintenant en 2019, la situation a considérablement évolué et il faudrait en tenir compte.
Bien, merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, François Frison-Roche. On renverra à votre article quand il aura paru. Bien sûr, Yémen, un contexte régional déstructuré, une situation politique précaire, un conflit militaire de plus en plus décalé, dites-vous. Bien sûr, ce sera à suivre avec l'application de cet accord de Stockholm et le retrait potentiel de Hodeïda. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Une carrière de femme flic exceptionnelle, Martine Monteil a voyagé sur France Culture au fil de 5 entretiens.
Au niveau des subordonnés, finalement, ça s'est assez bien passé, c'est-à-dire qu'ils vous testent un peu au début. Quand on est une femme, il n'y a pratiquement pas de femmes dans l'active.
Première femme commissaire à la tête de la brigade des stupes, puis la mondaine, la brigade de répression du banditisme et la célèbre crime, patronne de la PJ avant de devenir préfète, celle qui a toujours aimé l'action nous entraîne avec elle dans les coulisses d'un métier où elle a su imposer sa propre marque. Martine Monteil, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
France Culture présente Alpha, The Right to Kill, un film de Briente Mendoza.
Ito po yung pinaka pusher dito sa area na to.
Dans les quartiers pauvres de Manille, la lutte anti-drogue fait rage.
All right, let's begin.
Un officier de police et son indique tentent coûte que coûte de faire tomber l'un des plus gros trafiquants de la ville, mettant en jeu leur réputation, la sécurité de leur famille et leur vie.
Aking tatay, tapang na walang kapantay.
Alpha, The Right to Kill, mercredi 17 avril au cinéma. Un film France Culture.
6h57 sur France Culture, ou presque, c'est l'heure de retrouver les matins avec vous, Guillaume Erner. Bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors, comme le montre Notre-Dame, le sacré n'est jamais loin.
Mais oui, le sacré ressurgit à chaque catastrophe. Et aujourd'hui, ô combien avec l'incendie de Notre-Dame, une catastrophe mystique au carré, catastrophe. Parce qu'elle touche le monument qui incarne l'âme de Paris, catastrophe, parce que ce monument est un symbole religieux. Et chacun, quelle que soit sa religion, ressent confusément ce qu'est le sacré. Le voilà le paradoxe, les églises se vident et pourtant le sentiment religieux est de retour dès qu'un drame apparaît. On songe évidemment à ce que le sociologue allemand Max Weber appelait le désenchantement du monde. Car le désenchantement du monde n'est en rien une fin d'un monde enchanté. Le nôtre est toujours aussi rempli de mythes, de chimères et de symboles. Le désenchantement du monde, c'est la fin de la magie comme technique de salut. C'est une manière beaucoup plus spirituelle d'envisager l'existence. Les prêtres, ont remplacé les magiciens, dit Max Weber. C'est également l'idée selon laquelle le religieux n'organise plus l'espace social, en tout cas ici en France, mais cela est une autre histoire. Mais que Notre-Dame prenne feu et ressurgit le sacré défini jadis par des anthropologues comme ce qui autorise le sacrifice et prévient le sacrilège. L'incendie de Notre-Dame, c'est un effondrement, une sorte de 11 septembre spirituel, même lorsque l'on n'est pas chrétien. Je parle du 11 septembre parce que l'on se souvient tous de la manière dont nous regardions hébéter les tours tombées hier. Nous avons retrouvé le même regard devant l'effondrement de la flèche de Notre-Dame. Alors bien sûr, le 11 septembre était un attentat. L'incendie de Notre-Dame semble, en tout cas aujourd'hui, accidentel. Mais paradoxalement, cela ne fait que renforcer le sentiment confus que le sacré est à l'œuvre, comme s'il y avait un symbole à déchiffrer dans cet incendie. Il faut de la force à la part rationnelle de nos esprits pour refuser toute signification symbolique à cet incendie, peut-être parce que dans nos cerveaux reptiliens réside l'idée selon laquelle le feu n'est jamais innocent. C'est une nouvelle fois le malheur qui met le sacré sur le chemin de l'homme.